Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
New York Underground. Bonjour à tous et toutes. L'art fait battre le cœur des villes. Il est saisi par des avant-gardes engagées dans des lieux alternatifs propices aux expérimentations. Le New York des années 1970 ne fait pas exception, qui voit l'éclosion de scènes artistiques underground à côté des institutions institutionnalisées justement. Ce New York 70s ne se limite pas à Andy Warhol, au Velvet Underground le bien nommé, ou à la Factory. D'autres lieux emblématiques voient le jour comme naît aussi une génération d'artistes, plasticiens, performeurs, peintres, vidéastes, qui vont changer la perception de l'esthétique et réinventer à leur manière l'art contemporain. La photographe Cindy Sherman, le peintre Robert Longo du côté de Buffalo d'abord, ou le sculpteur Richard Serra à New York, pour ne citer que les plus connus des 4500 artistes recensés à Manhattan en 1965. Ce New York 70s s'apparente à la Florence de la Renaissance, tant l'ébullition artistique sur tous les supports est permanente. On y invente des formes qui nous sont aujourd'hui familières. L'art vidéo, le body art, les installations. Et, dans la lignée de Marcel Duchamp, on change les formes mêmes de l'expérience artistique en mettant en jeu le corps de l'artiste, le corps du spectateur et l'espace scénique où l'œuvre se déploie. Les années 70 marquent ainsi un moment de redéfinition de l'acte créateur contre les musées figés, contre l'académisme et contre la marchandisation de l'art, jusqu'au moment où l'avant-garde elle-même sera dépassée. Cet âge d'or artistique new-yorkais, nous allons l'explorer en compagnie de Christelle Théroni, qui a travaillé précisément sur ces quelques années de rupture et d'inventivité dans l'histoire de l'art. Bonjour Christelle Théroni.
Bonjour.
Christelle Théroni, vous êtes agrégée d'anglais et docteur en civilisation américaine de l'université Lyon 2. Vous venez de publier deux livres, le premier aux presses universitaires de France avec Annie Cohen-Solal sur la valeur de l'art contemporain et le second en 2015 aux presses universitaires de Rennes qui s'intitule New York 70s, qui est le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui. Question rituelle, Christelle Théroni, comment en êtes-vous venue à travailler sur ce New York alternatif dans cette décennie particulière des années 1970?
Alors, c'était pas évident tout à fait au vu de ma formation au départ, parce que moi je suis pas historienne de l'art, je suis angliciste. Donc j'en suis venue à la scène new-yorkaise des années 70 à travers l'architecture. L'architecture que j'ai étudiée pour mes masters, je me suis intéressée aux musées américains, à leurs architectes, aux musées situés notamment sur des campus américains. Et puis en me baladant aux États-Unis, à Boston, à New York, je suis allée jusqu'au Texas, à Marfa, où il y a des installations assez gigantesques de l'art minimaliste, notamment à la Altinati Foundation à Marfa. Je me suis rendu compte qu'il y avait une architecture qui était très intéressante, qui n'avait pas été très très étudiée et qui était l'architecture des musées d'art contemporain. Et au lieu de m'intéresser directement à ça, j'ai adopté un point de vue un peu rétrospectif. Je me suis demandé d'où venait cette architecture. Et donc, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que elle venait des espaces alternatifs en grande partie.
C'était des nouveaux musées, en quelque sorte. C'était des musées qui n'obéissaient pas à la scénographie, aux accrochages habituels.
Voilà, c'est-à-dire c'est des musées qui pouvaient abriter des œuvres assez monumentales, également des œuvres qui suivent ce qu'on appelle la dématérialisation de l'œuvre d'art, c'est-à-dire une œuvre d'art qui n'est plus forcément un objet, ça peut être une performance, ça peut être une vidéo. Donc toutes ces formes, à partir des années 70, elles ont dû être abritées par des structures. Et donc, au début des années 80, les premiers musées d'art contemporain naissent, comme The New Museum, ou des structures comme ça, ou PS1, les antécédents, ce sont les espaces alternatifs et les réhabilitations urbaines de quartiers comme Soho, par exemple.
Alors, on va en parler, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des artistes, et puis il y a des lieux qui sont investis par ces artistes, il y a des quartiers qui sont investis par ces artistes, et c'est ce qui se passe dans le mouvement alternatif que vous étudiez, donc dans le New York des années 70, qui est que, au tournant des années 60-70, beaucoup d'artistes vont, j'allais dire, investir un même quartier qui va être ce sud de Manhattan. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de mouvement de foule d'artistes?
Oui, il y a un mouvement de foule, c'est ça, mais il se fait progressivement. En fait, ça commence dans les années 60. Alors le sud de Manhattan, downtown Manhattan, ça a toujours été depuis le début du XXe siècle un lieu où les artistes s'installaient puisque c'était des quartiers peu chers. Et dans les années 60, il y a un nouveau mouvement où les artistes s'installent dans des ateliers qui sont désaffectés. C'est la crise industrielle à New York. Les anciens ateliers manufacturiers sont vides, ils sont vidés. Il y a un exode de cette industrie en dehors de New York. Et donc les loyers sont peu chers. Et que font les propriétaires? Ils les louent à des artistes. Donc bien sûr, ces occupations d'espace sont des occupations sauvages au départ. Elles sont illégales, elles sont tolérées. Mais il faut s'imaginer que dans les années 70 à New York, le Soho, c'est un quartier qui est extrêmement abîmé au niveau urbain, qui est en plein déclin, il n'y a aucun commerce, les bâtiments sont décrépits, bien sûr ces bâtiments ont de grandes structures, beaucoup de lumière, hein, des espaces assez grands pour les artistes, donc ça les intéresse beaucoup, mais c'est difficile de vivre dans ces quartiers, donc il faut vraiment avoir un mode de vue très spécifique, très alternatif, et donc au fur et à mesure, ce quartier crée une dynamique artistique en dehors des sentiers battus, qui crée aussi une scène qui s'oppose à celle de Uptown Manhattan, où sont localisées les galeries.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Et donc, ça se fait progressivement, mais rapidement. Donc, dans les années 60, l'installation des artistes. Dans les années 70, ouverture des premiers musées, espaces alternatifs, qui s'accompagnent, en fait, de l'arrivée des galeries d'art contemporain, notamment Léo Castelli qui s'installe là en 1971 ou 74, je me souviens plus exactement, mais très rapidement la galerie de Paula Cooper aussi en 1968. Donc voilà, à la suite de l'installation des artistes, les premières structures alternatives ou commerciales voient le jour.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces nouveaux lieux qui sont investis, qui sont effectivement des usines désaffectées, des friches industrielles, des lieux assez grands, vont aussi avoir une influence sur l'art qui va être produit. Vous parlez à un moment dans votre ouvrage d'une esthétique du taudis. Qu'est-ce qu'on va commencer à produire, Christelle Théroni, dans ces lieux-là?
Alors dans ces lieux-là, on produit des installations, des performances, de l'art vidéo, de la danse également. Ce sont des lieux où les artistes collaborent. On parle beaucoup d'intermédialité, on parle de pluralisme, c'est-à-dire que les œuvres sont éphémères, elles évoluent. Aucune forme n'est figée à cette époque, c'était un terrain d'expérimentation fou en fait. On peut prendre quelques exemples, par exemple Gordon Matta-Clark à l'époque, qui est un artiste qui travaille à travers des médiums qui sont absolument pas identifiés. Il fait par exemple ce qu'il appelle des gaufres incendiaires, où il met le feu à des différentes matières qui donnent après une espèce de masse bizarre et informe qu'il expose ensuite dans ses espaces. Des espaces aussi qui abritent de la sculpture qu'on appelle post-minimaliste. Donc on peut prendre l'exemple de Alice Aycock, Georges Tracas, qui sont moins connus, mais donc ces artistes utilisent l'environnement de l'espace, utilisent aussi des matériaux qu'ils récupèrent au dehors, des corniches à Nansaret.
Il y a des photos dans votre ouvrage, voilà. Récupération de grandes corniches d'immeubles détruits à Manhattan que les artistes récupèrent et qui vont retravailler, exposer, parce qu'ils ont de la place en plus, puis un côté urbain dans tout ça.
Oui, complètement. Il y a une espèce de porosité entre l'intérieur du loft et l'extérieur, donc c'est aussi la volonté de ces artistes de s'affranchir un peu des normes qui prévalent ailleurs en fait, où l'univers de la galerie ou du musée est cloisonné en fin de compte. Là, il y a un lien direct avec la rue et parfois les activités s'exposent en dehors de l'espace alternatif, des performances devant, de la danse sur les toits. C'est une scène très riche et qui se voit à l'intérieur comme à l'extérieur aussi.
Vous avez évoqué la question des normes, il y a aussi chez ces artistes-là une hostilité à la logique marchande de l'art, et puis il y a une hostilité à la programmation qui se fait dans les musées connus et assis et institutionnels que sont le Guggenheim Museum, etc. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi de cette manière de se poser en s'opposant, c'est-à-dire de dire on va faire quelque chose de complètement différent contre les musées institutionnalisés.
Oui, donc tout à fait. C'est-à-dire que ça date aussi des mouvements de protestation qui ont lieu à la fin des années 60, en 1969 jusqu'en 71, où il y a des groupes d'artistes qui se forment, comme le Guerrilla Action Group, comme le Art Workers Coalition, qui sont des groupes d'artistes très militants qui s'opposent à l'élitisme et au racisme des institutions muséales qui dominent donc le monde de l'art et qui opèrent un processus de sélection en fait et donc qui rejettent un certain nombre d'artistes plus expérimentaux, plus jeunes et les femmes aussi, les artistes
afro-américains. Ouais, qui rentrent dans aucune case et qui en tout cas sont marginalisés dans l'esprit de ces musées-là.
Tout à fait, donc ils s'opposent à ça. Et alors dans les espaces alternatifs, on voit pas forcément ce côté militant, mais il y a une continuité directe en fait avec ce qui s'est passé à la fin des années 60. Et puis oui, il y a une volonté de se couper un peu du monde de l'art, notamment géographiquement. En fait, c'est très clair, ça se voit dans la géographie de la ville. Et puis, il n'y a aucune transaction commerciale dans ces espaces. Et si elles ont lieu, elles sont très rares. Alors, les espaces alternatifs essaient de mettre en place des systèmes de vente alternatifs. Ça fonctionne absolument pas.
Oui, ils se plantent complètement. Il y a un récit dans votre ouvrage où ils essaient de vendre des photos et puis ils les font passer. Ils en font passer 400 à toute vitesse et finalement personne ne voit rien et n'achète rien. Donc, ils sont très débutants là-dessus sur la commercialisation de leurs œuvres d'art.
Oui, et puis les œuvres sont très expérimentales. C'est difficile de les vendre. Et il y a Irving Sandler qui est le fondateur de Artist Space qui dit à la fin des années 70 ou les années 80, je me souviens plus, dans un entretien, il dit mais en fait c'était impossible. Il nous fallait des intermédiaires. Il faut des intermédiaires qui sont les marchands d'art. Bon, après, des galeries vont s'ouvrir dans les quartiers de Soho et qui vont mettre en vente ces artistes. Mais c'était très difficile dans les espaces alternatifs de faire quelque chose de lucratif. Les financements vont venir paradoxalement des grandes institutions artistiques, des grandes institutions fédérales américaines en fait.
Ouais, qui vont à un moment injecter de l'argent pour aider ça. Il y a effectivement un activisme hostile à l'art académique ou à l'art déjà posé. Ce qui est plus surprenant quand on lit votre ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de discours politique ou de discours de contestation politique, alors qu'on aurait pu l'attendre de ces milieux-là, sachant qu'on sort quand même d'une période où il y a eu les protest songs de Dylan et que c'est la guerre du Vietnam. Donc il y a quelques éléments. Alors comment se fait-il qu'ils soient dépolitisés à ce point
Ça tient en partie. En fait, c'est un parti pris que j'ai pris en sélectionnant certains espaces qui sont plus tournés vers l'expérimentation et qui veulent avancer dans les pratiques. Donc pour eux, le retrait de la scène institutionnelle ou marchande, c'est déjà un positionnement politique. C'est ce que je dis dans mon livre. Mais je pense aussi que peut-être les choses sont déformées par le choix du corpus. Si on avait pris en compte, si j'avais pris en compte des collectifs d'artistes plus militants, on aurait vu cette continuité plus directement, on aurait vu plus d'œuvres d'art au contenu politique. Là, c'est vrai que mon livre traite plutôt de toutes les expérimentations artistiques qui sont pas forcément, qui n'ont pas un discours politique en fait, très très clair.
Dans cette opposition au musée institutionnel, il y a aussi une opposition à la manière même de présenter les œuvres, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien entre le musée et la manière dont l'œuvre se fait et se présente, et en particulier à ce qu'on appelle le white cube, le cube blanc, qui est apparemment pratiqué dans les musées institutionnels. C'est quoi ce white cube, Christelle Théroni, contre lequel s'opposent les acteurs alternatifs, les artistes alternatifs?
Alors le white cube, le cube blanc, c'est un concept assez simple qui a été créé par Brian O'Doherty, qui est à l'époque un acteur vraiment très important de la scène downtown et du monde de l'art en général, puisqu'il est artiste sous le nom de Patrick Ireland. Il est également théoricien et puis administrateur. Il a travaillé pour la NEA plusieurs années, National Endowment for the Arts. Mm-hmm. Et donc ce white cube, c'est un concept qui vient qui est là pour expliquer l'esthétique du modernisme plutôt en fait, c'est-à-dire l'œuvre d'art comprise comme autosuffisante, autoréflexive, qui n'a besoin que d'un espace blanc pour exister, qui lui donne son statut d'œuvre et qui n'entretient en apparence avec son environnement aucun lien en fait, donc qui se suffit à elle-même. Donc c'est contre en fait cette esthétique.
Ça c'est la manière dont on expose classiquement. C'est-à-dire voilà. qu'on va magnifier l'œuvre d'art en disant qu'elle est effectivement, on peut la comprendre, mm-hmm. et donc on va dépouiller au maximum tout ce qu'il y a autour d'elle. Et là il y a effectivement un mouvement d'opposition.
Voilà, il y a un mouvement d'opposition en faisant appel à des espaces qui sont bruts en fait, des espaces industriels qu'on ne repeint pas forcément en blanc ou qu'on réhabilite pas du tout et dont on utilise un peu les crevasses, les aspérités, les fenêtres cassées, on fait des trous dans le sol, on les malmène, on peut faire ce qu'on veut dans ces espaces. Donc ça s'oppose complètement à la logique du white cube, ouais, exactement. Donc et les pratiques imposent cela en fait, imposent de vivre l'espace autrement.
Les œuvres qui sont exposées et travaillées dans ces espaces alternatifs, vous les qualifiez, vous avez déjà un peu employé le mot au début de cette émission, de post-minimaliste ou de post-moderniste. Alors c'est vrai que ces labels font parfois un peu peur et qu'on ne sait pas très bien quoi mettre derrière. C'est quoi alors cet art post-minimaliste et cet art post-moderniste?
Alors le post-minimalisme, c'est vrai que c'est en fait ce sont des mots un peu fourre-tout, des mots qui sont très contestés aussi, dont on discute encore beaucoup aujourd'hui. Mais donc post-minimalisme, c'est ça date de la fin des années 70. C'est un critique, Robert Pigus Witten, qui est aussi un historien de l'art, qui crée ce concept. Donc en fait, ce concept, si on simplifie un peu, c'est pour englober toutes les pratiques artistiques où l'œuvre d'art n'est plus un objet en fait. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, de la performance. Il y a différentes étapes de l'art vidéo, du body art, donc de la danse, toutes ces pratiques-là qui, en fait, sont les nouvelles pratiques artistiques des années 70 et qui sont souvent désignées sous le terme aussi de pluralisme, en fait, donc et d'intermédialité. Donc tous ces chevauchements entre pratiques sont englobés par le terme post-minimalisme. Après, post-modernisme, c'est plutôt quand on parle des changements esthétiques, en fait. On qualifie plus les pratiques, on parle d'une nouvelle façon d'envisager l'art, c'est-à-dire de manière environnementale, de manière participative aussi pour les acteurs. Il y a des interactions aussi, on fait participer le public à certaines performances. Et donc ça, le post-minimalisme et le post-modernisme sont là pour caractériser l'art des années 70, mais sont encore c'est trop imprécis pour pouvoir voir toute la diversité des pratiques qui a lieu à cette époque. Le post-modernisme, on en parle aussi beaucoup en architecture, ça peut être aussi une reprise des mouvements antérieurs, de tout ce qu'on appelle les avant-gardes historiques. On parle aussi de néo-avant-garde. Donc on a un peu ce fatras de pratiques qu'on essaye de comprendre. Mais bon, post-modernisme, c'est un peu... c'est très très vague.
En tout cas, il y a un moment d'ébullition et il y a l'idée que l'œuvre d'art, pour la saisir et pour qu'elle existe, il faut effectivement que se joue quelque chose entre l'espace, l'œuvre, le spectateur, par exemple dans le cas des performances. Et c'est ça aussi qui s'invente, c'est-à-dire un art qui n'est plus hors sol, mais qui n'existe que dans sa propre pratique, qui existe dans son ici et maintenant, le moment de la performance, le moment de l'installation. C'est ça aussi qui s'invente.
Oui, complètement. C'est-à-dire que l'œuvre, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à travailler sur ces espaces et ces pratiques et que c'est en train de se faire, c'est qu'on a perdu la trace, elles sont éphémères. La performance, si elle n'est pas enregistrée, voilà, on en a des traces écrites, on en a des récits, mais effectivement, mais c'est ce que recherchent les artistes à cette époque, c'est ce qui leur permet, cette flexibilité, cette malléabilité, leur permet de pouvoir évoluer dans leur pratique aussi, parce que effectivement, une performance ne laisse pas de traces, on n'est pas attaché à un médium comme on l'était avec la peinture et la sculpture. Il n'y a plus de hiérarchie entre les pratiques, c'est ça aussi le postmodernisme, hein, c'est cet aplatissement, on parle de la fin des grands récits avec les tard, mais c'est ça aussi dans les arts visuels, c'est un aplatissement des pratiques et puis une profusion et des correspondances entre différents médiums en fait.
Alors précisément, il y a un moment où effectivement on fait correspondre ou dialoguer des médias, mais on va aussi tout expérimenter. On va expérimenter dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va expérimenter dans la vidéo. L'art vidéo s'invente à ce moment-là. On va expérimenter dans la musique. On peut dire un mot de ce dialogue et de cette inventivité, Christelle Terroni, à cette période-là.
Oui, ben on peut prendre par exemple les exemples de Nam June Paik, de Laurie Anderson aussi avec les débuts de la musique électronique.
On va écouter dans un instant.
Oui, et donc par exemple The Kitchen, qui est un espace alternatif qui est très dynamique aussi à Soho dans les années 70, travaille beaucoup sur l'art vidéo et puis sur les l'expérimentation acoustique en fait sur la musique. Ils essaient de relier tout ça. On utilise les premières caméras portatives, la Portapack. On commence à utiliser les nouvelles technologies qui sont celles de l'époque en fait, et donc l'art vidéo naît. Voilà.
On va écouter le début d'un morceau expérimental électronique de Laurie Anderson que vous venez de mentionner, qui date de 1981, qui s'appelle « Oh Superman ». New York Underground, nous sommes en compagnie de Christelle Théroni. Christelle Théroni, on vient d'écouter Laurie Anderson, Oh Superman, un mot sur cette chanson expérimentale, on l'entend tout de suite.
Oui, oui, c'est assez emblématique de ce qui peut se faire dans les premiers pas de la musique électronique. Donc j'ai choisi Laurie Anderson parce qu'elle appartient à la fois au monde de l'art visuel et au monde de la musique. Et la transition se fait en 1981 parce qu'elle signe grâce à ce tube en fait. Ça devient vraiment un tube en 1981, notamment en Grande-Bretagne. Elle signe avec Warner Bros un contrat. Donc elle quitte un peu la scène underground.
Ah, ouais. Là pour le coup, voilà. C'est plus alternatif.
Non, voilà. Donc c'est assez drôle finalement ce parcours, puisque elle est au début, elle fait de la sculpture. Hein, elle a été formée comme en sculpture, et puis elle utilise son violon dans les années 70 pour faire de la performance. Il y en a notamment une qui est très connue, qui s'appelle Duets on Ice, où elle utilise un haut-parleur qu'elle intègre à son violon, et puis qu'elle joue avec les pieds dans deux blocs de glace, dans des patins à glace insérés dans des blocs de glace, et puis la performance se termine lorsque la glace a fondu. Donc voilà, ça donne un peu une idée de voilà. Donc il y a un côté un peu ludique là-dedans, qui débouche finalement sur un succès commercial assez inattendu. Et donc ça prouve aussi que le public est là et que les transformations sont rapides dans les années 70-80.
Oui, que ça peut presque correspondre à une attente sociale. Le morceau est beaucoup plus long hein, que ce qu'on en a passé. On en a passé juste le début. On va aussi écouter le début d'une chanson de quasiment de la même époque, cette fois-ci de Patti Smith, qui date de 1965, Horses.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly in the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, 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 horses. Coming in all directions. White, shining, silver. Studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do you know how to pound me? Like Bonnie Maroney.
souhaitez renier un mot sur cette chanson de Patti Smith ou sur Patti Smith, toujours oui. en activité?
Oui, ben oui, toujours en activité, toujours dynamique, toujours appréciée. Et donc Patti Smith, c'est pareil, c'est une artiste qu'on retrouve dans le sud de Manhattan, qu'on retrouve dans les clubs, notamment le CBGB, qui est le club vraiment où les premiers groupes de punk rock jouent. Et donc Patti Smith, on l'entend ici, c'est à la fois le rock, mais c'est aussi la poésie. Elle a beaucoup écrit dans les années 60, début des années 70 aussi, et elle renouvelle en fait le rock au début des années 70 quand elle fonde son groupe Patti Smith Group. Et donc Horses, c'est un album qui est maintenant assez canonique dans le monde du rock, et puis qui a quand même ce petit côté expérimental avec le phrasé de Patti Smith, son goût pour les mots, pour la poésie, pour le rythme qu'on sent toujours dans ses chansons, et notamment dans ce premier album.
Où en sont ces lieux alternatifs aujourd'hui sur lesquels vous avez travaillé, et voilà, quand ils se sont montés il y a 40 ans, où ils en sont aujourd'hui?
Alors c'est assez difficile de retrouver la scène des années 70, elle a vraiment disparu, en tout cas à New York. Après il faut peut-être aller voir dans d'autres banlieues plus lointaines en fait. Mais c'est vrai que l'institution et le marché ont très rapidement récupéré ces espaces. Et qui se sont transformés, le 112 Green Street, Artist Space sont encore des galeries qui existent au même endroit. Elles ont changé de nom pour l'un, White Columns, pour 112 Green Street, mais ce sont des galeries à but non lucratif, donc qui mettent toujours l'artiste au cœur de leur projet. Donc ça, c'est peut-être le plus important. Par contre, c'est vrai qu'il y a un modèle économique qui est plus du tout celui des années 70.
Elles sont rentrées dans le circuit, entre guillemets. Mais c'est ce qu'elles voulaient, peut-être, ou en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis, effectivement, il n'y avait pas forcément une hostilité très grande ni à l'institution ni au marché de l'art. Ça s'est trouvé comme ça. Par contre, ce que je pense qu'on peut remarquer, c'est que la ville aussi a évolué. C'est très difficile de trouver des niches comme celle de Soho à l'époque, où il y avait quand même 500 bâtiments qui sont maintenant classés. Donc tous ces bâtiments, toutes ces friches industrielles, on les retrouve dans certaines villes. On les a retrouvées dans les années 90 à Berlin, qui a beaucoup attiré les artistes. Mais là encore, maintenant, on a les politiques, les institutions ont très conscience de la plus-value qu'apportent les artistes dans une ville. Et donc souvent, ce sont des projets ex nihilo qui se créent. Le 104 à Paris, on a des choses aussi comme à Aubervilliers, donc il y a des choses qui se créent, notamment à Paris, mais c'est toujours dans un cadre beaucoup plus cadré. Il y a un projet social aussi souvent derrière.
Une politique municipale, voilà. Une implantation. Mais au moins, ça aura peut-être lancé ça, l'importance de la place de l'artiste dans la ville.
Ah, complètement. Je pense que ça a renouvelé le statut des artistes, leur pouvoir de transformation, notamment urbain. Et absolument énorme, et on a capitalisé dessus maintenant, mais c'est né dans les années 70 et c'est né à Soho.
Cette émission s'achève. Merci beaucoup Christelle Théroni pour votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, New York 70, c'est publié aux Presses universitaires de Rennes en 2015. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. À dans 15 jours pour la prochaine émission.